Prison d'enfer, chapitre 5e. Environ 12 ans après les événements que nous avons racontés, vers la fin du mois de mars 1812, sur les 2 heures de l'après-midi, un voyageur arriva pédestrement à l'hôtel de l'Aigle impérial, unique auberge du bourg de Sorville, où se trouvait alors le second relais de poste sur la route de Dieppe à Paris. Ce voyageur, homme dans la force de l'âge, portait un chapeau ciré et une grosse casaque bleue à boutons de cuivre timbrée d'une encre. Il avait les dehors d'un bas-officier ou d'un maître de la marine marchande. Ses cheveux et ses favoris étaient roux, son teint blême, sa physionomie impassible et dure. Il parlait le français sans le moindre accent, quoiqu'il fût anglais. Après un moment d'hésitation, ce personnage entra dans la grande salle de l'auberge et, s'adressant à l'hôtelier, reconnaissable à son bonnet de coton et à son tablier blanc. « Pourriez-vous me dire, monsieur, s'il n'est pas venu ici ce matin un voyageur à peu près vêtu comme moi, très brun de visage et ayant l'accent italien? Il se nomme Pietri. Je n'ai vu personne ici de ce nom et de cette figure-là, monsieur. Vous en êtes bien sûr, très sûr. Est-ce qu'il y a une autre auberge dans ce bourg? Non, non, monsieur, grâce à Dieu. Il n'y a que la mienne. » Aussi j'ai la pratique des diligences et des voitures de poste, ce qui est très commode pour les voyageurs vu que l'on relaye à 2 pas de ma porte. « Ah ! » fit l'anglais, que cette circonstance parut frapper. « On relaye près de chez vous, de l'autre côté de la rue, presque en face d'ici. Pourriez-vous me donner une chambre et faire préparer à déjeuner pour 2 personnes ? J'attends ici quelqu'un qui viendra demander « Maître Dupont, c'est mon nom. » »« Très bien, monsieur. » « Lorsque cette personne sera arrivée, vous nous servirez dans ma chambre. »« C'est entendu, monsieur. Et vos bagages, où faut-il les envoyer prendre ?»« Je n'ai pas de bagages. Je suis venu des environs de Dieppe, en me promenant. »« Diable ! Savez-vous, monsieur, que pour un marin, car vous l'êtes, j'en suis sûr, j'ai deviné ça tout de suite. »« En effet, je suis marin. »« Je disais donc que pour un marin, vous marchez fièrement bien sur le plancher des vaches, comme on dit. » car il y a loin d'ici à Dieppe. » L'anglais paraissait peu jovial et peu causeur. Au lieu de répondre à la plaisanterie de l'aubergiste, il reprit « A-t-il passé beaucoup de voitures de poste par ici aujourd'hui ?»« Pas une, monsieur. » »« Aucune venant de Paris ou de Dieppe ?»« Non, monsieur, ni de Paris ni de Dieppe. » »« Mais à propos de Dieppe, puisque vous en venez, vous avez dû y voir le fameux héros dont tout le monde parle. » »« Quel héros ?»« Parbleu, ce fameux corsaire !» Qui est la mort aux Anglais, l'intrépide capitaine l'endurci, voilà un vrai nom de corsaire. Il paraît qu'avec son brick, le tison d'enfer, encore un fameux nom, qui marche comme un poisson, pas un bâtiment anglais ne lui échappe. Il vous les gobe tous. Témoin, ce dernier convoi de blé qu'il vient de leur pincer encore après un combat enragé. Quelle bonne chance, le blé était si cher dans le pays. La prise de ce convoi va le faire baisser. C'est l'abondance au lieu de la disette. Brave corsaire, bah ! Quel bonheur de se dire qu'il y a toujours des gens curieux, d'échiner ces gueux d'anglais, n'est-ce pas, monsieur ? On dit qu'à Dieppe, on l'a porté en triomphe. Il a d'ailleurs une fameuse étoile, car on prétend que, quoiqu'il se batte comme un lion, il n'a jamais été blessé. Est-ce vrai ? Est-ce que vous le connaissez ? Comment est-il donc ? Je ne me fais pas une idée de sa figure, mais elle doit être terrible. On dit qu'il est toujours habillé d'une manière bizarre. Vous qui êtes marin, vous devez l'avoir vu, ce héros. Jamais, répondit sèchement le voyageur, qui ne paraissait pas partager l'admiration de l'aubergiste à l'endroit du corsaire. Puis il ajouta, conduisez-moi à ma chambre. Vous y amènerez la personne qui viendra demander Maître Dupont. Ne l'oubliez pas. C'est convenu, monsieur. Dès que cette personne sera arrivée, vous nous servirez à déjeuner. « Oui, monsieur. Je vais maintenant vous mener à votre chambre. » « Donne-t-elle sur la rue ?»« Certainement, monsieur. 2 belles fenêtres. »« Vous nous servirez de votre meilleur vin. »« Soyez tranquille, monsieur. Vous serez content, » répondit l'aubergiste. Il conduisit l'étranger dans sa chambre et dit en se retirant. « C'est drôle. Ce marin avait l'air presque vexé du bien que je disais de ce fameux corsaire, et pourtant, ils sont du même état, puisqu'ils sont marins tous deux. » Mais au fait, que je suis bête, c'est justement parce qu'il est du même état que ça leur a vexé d'entendre dire du bien de l'autre. C'est comme moi, Si on venait me parler d'un aubergiste qui voudrait s'établir ici, c'est étonnant comme je lui souhaiterais bonheur à cet autre. » L'hôtelier se livrait à ses pensées qui témoignaient de sa triste opinion de l'âme humaine lorsqu'un second voyageur entra dans la grande salle de l'auberge. Ce personnage était aussi vêtu d'une houppelande de marin. Son teint bronzé, ses cheveux épais, noirs comme ses sourcils, et sa large barbe en collier, ses traits durs, presque repoussants, lui donnaient une physionomie sinistre. Il était maltais, et son accent se rapprochait assez de l'accent italien. Après avoir jeté un regard curieux dans la grande salle, le nouveau venu dit à l'aubergiste en mauvais français « Il n'est pas venu ici, un voyageur ?»« Un voyageur nommé Maître Dupont, n'est-ce pas ?»«
Oui. » »«
Suivez-moi, monsieur. Je vais vous conduire chez Maître Dupont. » L'anglais et le maltais, ainsi réunis, l'autre, après avoir servi le déjeuner, reçut l'ordre de ne pas déranger les convives et de ne se présenter qu'à l'appel de la sonnette. Dès que les deux étrangers se trouvèrent seuls, le maltais, frappant sur la table avec rage, s'écria en anglais « Le chien de contrebandier recule, tout est perdu. Que dis-tu ?
La vérité.
Aussi vrai que j'enfoncerai avec joie ce couteau dans le cœur du lâche qui nous trahit. » Et le maltais, blême de colère, planta le couteau dans la table. « Dieu damné ! » s'écria l'anglais en sortant de son flegme habituel. « Et ce soir, à la tombée de la nuit, le capitaine va passer. Tu en es sûr ? Ce matin, au moment où j'ai quitté Dieppe, notre émissaire m'a encore assuré que le capitaine avait fait demander des chevaux à la poste pour 4 heures de l'après-midi. Il sera donc ici entre 5 et 6 heures. Il sera là-bas à la nuit. Tonnerre et sang ! Tout nous secondait, et sans ce misérable contrebandier.
Pietri,
dit l'anglais en redevenant calme, tout n'est peut-être pas désespéré. La violence n'aboutit à rien. Parlons froidement.
Parlez froidement, quand la rage m'aveugle.
L'aveugle ne voit pas son chemin.
Mais pour rester si calme, tu ne le hais donc pas, cet homme, toi ?
Moi ? Il est impossible de rendre avec quel accent l'anglais prononça ce seul mot, moi. Après une pause, il reprit d'une voix concentrée.
« Il faut que je le haïsse plus que tu ne le hais, Pietri, puisque je ne veux pas le tuer, moi.
Serpent écrasé ne mord plus.
Oui, mais le serpent écrasé ne souffre plus. Et il faut que cet homme souffre dans son orgueil 1000 tortures, pire que la mort. Il faut qu'il expie le mal affreux qu'il a fait à mon pays. Il faut qu'il expie ses insolents et féroces triomphes, qui sont la terreur et la honte de nos croiseurs. Il faut qu'il expie la gloire qu'il a eue de me battre 2 fois. Il faut qu'il expie le dernier outrage que m'a fait son insultante générosité. Dieu damné ! Je suis donc un ennemi bien à dédaigner, pour qu'il m'ait renvoyé libre en me portant sur un cartel d'échange, après ce dernier combat qui nous a coûté tant d'or et tant de sang, sans qu'une goutte du sien ait coulé, car on le dirait invulnérable. Oh, mais par l'enfer, je veux me venger. Je veux venger l'Angleterre.
« Tout à l'heure, » reprit le maltais, avec un sourire sardonique, « le capitaine Russell me reprochait la violence aveugle de mes paroles, et voilà qu'il crie vengeance, lorsque la vengeance nous échappe. »«
Tu as raison, »
reprit Russell en se calmant, « cet emportement est mauvais. Ne désespérons pas. Et d'abord, que s'est-il passé entre toi et le contrebandier ?»«
Parti de cette nuit de Dieppe sur un bateau pêcheur, je suis arrivé ce matin en suivant la côte à l'anse de Rosay, et je me suis fait conduire à la cabane du contrebandier située sur la plage.
Vous vous nommez Bezlec ?
Lui ai-je dit.
Oui.
Je viens de la part de Maître Keller.
Quel est votre mot de reconnaissance ?
Passepartout.
Bien, je vous attendais.
Mon chasse-marée est à votre service. Il y a flot ce soir à 10 heures, et le vent, s'il ne change pas, est bon pour passer en Angleterre.
« Maître Keller vous a-t-il dit de quoi il s'agissait ?»«
Oui, de conduire quelqu'un à Folkestone. »«
De lui conduire de gré ou de force ?»«
Oui, mais sain et sauf, sans que sa vie court aucun danger. »«
Je suis contrebandier, mais je ne tue pas. »«
Amenez donc ici votre passager ce soir, et je vous réponds que demain, avant le lever du soleil, il sera en Angleterre. »«
Keller vous a-t-il dit qu'il fallait mettre à ma disposition 4 ou 5 de vos matelots les plus résolus ?»
Pourquoi faire ?
Pour m'aider à enlever l'homme en question à son passage sur la grande route, à 3 lieues d'ici.
Maître Keller ne m'a rien dit de cela. Et du diable, si moi ou mes hommes nous nous mêlons d'un pareil guet-apens. C'est un mauvais jeu. Amenez-moi le passager ici. Je me charge de le mettre à mon bord, voilà tout. S'il résiste, je peux supposer qu'il est ivre, et que c'est pour son bien qu'on l'embarque. Mais aider un enlèvement sur une grande route, je n'en veux pas. » Tels ont été les derniers mots de ce misérable contrebandier. Instances, promesses, menaces, tout a été vain pour changer sa résolution. Ah, cela est fatal, fatal. Tu le vois, Russell, il faut renoncer à ses moyens. Si résolus que nous soyons, il nous est impossible à nous deux seuls de tenter cet enlèvement. En admettant que le postillon qui le conduira reste neutre, le capitaine, d'après nos renseignements, doit avoir pour compagnon de route son maître canonnier, cet homme intrépide et dévoué qui ne le quitte jamais, ni en mer ni à terre. Tous deux sont vigoureux et bien armés sans doute. Que pouvons-nous tenter, à force ouverte ? Rien, à moins d'être fou. C'est vrai, murmura l'anglais avec accablement. Mais où la force échoue, la ruse triomphe, reprit le maltais d'un air pensif, et l'on pourrait... Explique-toi. Écoute. En venant de la côte ici, j'ai bien observé le chemin. J'ai rejoint la grande route à une lieue environ de ce bourg. À cet endroit, marqué d'une croix de pierre, il y a une montée très rapide, suivie d'une descente non moins rapide. Ensuite, le capitaine, après avoir traversé ce bourg, où il aura relayé, rencontrera donc d'abord la montée à une lieue d'ici. Soit. À cette montée, nous irons nous embusquer. La nuit sera venue, les chevaux seront forcés de gravir lentement cette côte. À un moment convenu, nous nous approcherons de la voiture, et, nous donnant pour des marins rejoignant leur port, nous demandons au capitaine quelques secours. Toi à une portière, moi à l'autre, afin d'occuper cet homme et son compagnon. Tous deux seront en pleine sécurité. Nos pistolets à deux coups seront armés. Nos poignards à notre ceinture et... Jamais, s'écria Russell, je ne suis pas un assassin. Je ne veux pas la mort de cet homme. Ce meurtre sera une tâche pour l'Angleterre, et d'ailleurs, ce meurtre ne me vengerait qu'à demi. Non, non, ce que je veux, c'est jouir de la rage, de la honte de cet homme indomptable. Lorsque, devenu notre prisonnier, et avant d'être envoyé au ponton, il sera longtemps livré en spectacle aux huées, aux insultes de cette multitude que son nom a si souvent terrifiée. Jamais tigre en cage n'aurait rugi d'une fureur plus sauvage et plus impuissante. Oui, voilà ce que je voulais, et crois-moi, ce supplice et l'atroce captivité des pontons eussent été pour cet homme 100 fois plus terribles que la mort. Mais le refus de ce misérable contrebandier ruine mes projets. Ce relais passé, nous ne pouvons plus compter sur le voisinage de la mer. Et sur un bâtiment à nos ordres, tout enlèvement devient impossible. Que résoudre? Que faire?
Suivre mon avis, reprit opiniâtrement le maltais.
Crois-moi, la mort est moins cruelle, mais plus sûre que la vengeance, et d'ailleurs, à cette heure, cette vengeance devient impossible, tandis que nous tenons entre nos mains la vie de cet homme.
Tais-toi, répondit Russell d'un air sombre, tais-toi, tentateur.
Qu'importe le moyen, pourvu que l'Angleterre soit délivrée de l'un de ses plus dangereux ennemis. Tais-toi, te dis-je.
Songe à tant de navires saisis, brûlés, à tant de combats sanglants, dont cet homme est toujours sorti sain et sauf et vainqueur, malgré l'infériorité de ses forces. Laisse-moi. Songe à l'effroi que son seul nom inspire maintenant à nos marins dans ces parages, les premiers marins du monde. Cependant, et lors de notre dernière croisière, ne leur as-tu pas entendu dire dans leurs craintes superstitieuses que les succès de cet homme invulnérable et invincible présageaient peut-être l'abaissement maritime de l'Angleterre, et que la mer allait avoir son Napoléon comme le continent? Songe aux désastreux effets d'une telle croyance, si elle se propageait à cette heure où l'Angleterre tente un dernier effort pour renverser Bonaparte et écraser la France. Mais un guet-apens, un meurtre, un lâche assassinat.
Un assassinat, non?
L'Angleterre et la France sont en guerre. Profiter d'une embuscade, d'une surprise pour frapper son ennemi, c'est le droit de la guerre.
Russell ne répondit rien, cacha son visage dans ses mains et resta longtemps pensif. Le Maltais semblait aussi réfléchir profondément. Ces deux hommes demeurèrent silencieux jusqu'au moment où ils tressaillirent en entendant le roulement lointain d'une voiture, le claquement du fouet du postillon, et le bruissement de plus en plus distinct des grelots des chevaux de poste. L'Anglais, ayant consulté sa montre, s'écria « 5 heures. Ce doit être lui. Cette voiture vient de Dieppe. » Et tous deux se précipitèrent à la croisée, dont ils soulevèrent les rideaux afin de voir sans être vus. Ils aperçurent bientôt une espèce de vieux vis-à-vis jaune et poudreux, attelé de 2 chevaux, qui s'arrêta devant la poste située de l'autre côté de la rue et presque en face de l'auberge. Au bout de quelques instants, l'Anglais s'écria en devenant livide de rage et en jetant à travers la vitre un regard de haine implacable. « C'est lui. C'est bien lui. Il est seul, » reprit vivement le Maltais. « Il est seul. Il entre dans cette auberge. Tout nous seconde. Il aura laissé à Dieppe son maître canonnier, » reprit le Maltais. « Nous sommes 2, il est seul. » Soudain, Russell, éclairé sans doute par une idée subite, se frappa le front. Sa froide et blême figure se colora légèrement. Une étincelle de joie diabolique brilla dans ses yeux gris, et il dit à son compagnon d'une voix palpitante d'un sinistre espoir « Pouvons-nous toujours compter cette nuit sur le contrebandier ?»« Oui, car voulant nous réserver un moyen de fuite en cas de besoin, je lui ai dit de nous attendre. » »« Rien n'est désespéré, » s'écria Russell en sonnant violemment. « Confiance et courage !»« Que veux-tu dire ?» lui demanda le Maltais. « Que veux-tu faire ?»« Tu le sauras plus tard. Mais silence, voici quelqu'un. » En effet, l'aubergiste entra dans la chambre. « Votre déjeuner était excellent, notre hôte, » lui dit Russell. « Combien vous dois-je ? » ? « Avec la chambre, c'est 6 francs. Tenez, et voici de plus le pourboire du garçon. Vous êtes bien honnête, monsieur. Je compte une autre fois sur votre pratique. » « Certainement. Mais dites-moi, il me semble avoir entendu des chevaux de poste s'arrêter. Est-ce que vous avez un voyageur de plus dans votre auberge ?»« Oui, monsieur, il vient d'arriver. Je l'ai même installé dans la belle chambre bleue sur le jardin. » « C'est sans doute une de vos anciennes connaissances, car on doit aimer revenir dans cet hôtel. »« Monsieur est bien bon, mais c'est la première fois que ce voyageur s'arrête ici. »« Est-ce qu'il a un grand train, plusieurs domestiques ? Doit-il rester longtemps ici ?»« Non, monsieur, le temps de manger un morceau. Ce n'est du reste pas un seigneur, tant s'en faut. Il voyage tout seul, il a tout simplement l'air d'un bon bourgeois. Il chantonne entre ses dents, tambourine sur les vitres et paraît gai comme un pinson. Ce doit être un bien aimable homme. Vous me paraissez devoir être un grand physionomiste, notre hôte, reprit l'Anglais d'un ton sardonique. Puis, faisant un signe à son compagnon, il se leva et dit à l'hôtelier « Au revoir, nous allons faire un tour de promenade dans le bourg et retourner à Dieppe. Si vous voulez attendre la diligence de Paris, elle passe à 8 heures ce soir, messieurs. Merci. Quoique marin, nous sommes bons marcheurs. Et la soirée est superbe. Au revoir, messieurs. » Et l'aubergiste, après avoir salué les étrangers, rentra dans son auberge.